Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Merci de nous être fidèles semaine après semaine. Notre invité ce dimanche, il n'a pas 30 ans et c'est l'un des visages qui compte dans le nouveau paysage politique. Il est député des Hauts-de-Seine, porte-parole de La République En Marche. Gabriel Attal viendra nous rejoindre dans un instant. Vos questions, vos remarques, vos commentaires sont les bienvenus sur Facebook Live ou sur Twitter. Vous connaissez le mot-clé Questions Paul.
France Inter, Questions politiques. Ali Badou.
Et avec moi en studio, l'équipe du dimanche, Jeff Wittemberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour Ali.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Et Karine Becker de France Inter. Salut Karine.
Salut.
On va démarrer avec le tour de table traditionnel. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Jeff?
Eh bien, ce qui a retenu mon attention cette semaine, ce sont les relations compliquées, décidément, qu'entretient Emmanuel Macron avec les journalistes qui sont chargés de le suivre. Je résume. Mardi soir, grande première, le président reçoit, ou plutôt est reçu, car ce sont bien les journalistes qui l'invitent, dans un restaurant parisien pour une rencontre, en fait, une conférence de presse qui ne dit pas son nom. Emmanuel Macron répond sans notes, sans micro, mais il faut le dire aussi sans esquive, à toute une batterie de questions sur les sujets du moment, un ton sérieux. Sérieux, précis, peu de confidences, même pour évoquer le rôle de son épouse, on est loin de l'exercice version François Hollande, volubile, friand de bons mots, c'est disons plus austère, mais bon, chacun repart muni de pas mal d'informations pour nourrir ses lecteurs, et c'est déjà pas mal. Mais mercredi matin, changement de pied complet, nous apprenons, une information en apparence anodine, que la salle de presse installée dans la cour de l'Élysée va déménager dans la rue d'à côté, officiellement pour des raisons pratiques, mais dans les faits parce qu'Emmanuel Macron ne veut plus que des journalistes, ceux des agences de presse en l'occurrence qui y ont leur bureau, qui y sont à demeure, puissent surveiller les allées et venues dans la cour d'honneur. Protestation des journalistes, réponse d'une attachée de presse de l'Élysée, c'est la fin d'un privilège. Un privilège, je le précise, qui existait depuis Valéry Giscard d'Estaing. Et pourtant, comme le racontaient par exemple Hervé Asquin et Sabine Vibault, les correspondants de l'AFP à l'Élysée sous François Hollande, être dans le palais, c'est constater une ambiance, un silence, un départ précipité du président, un jour d'attentat, un jour d'affaires Cahuzac ou de sortie de livres ravageurs. Bref, c'est recueillir et donner de l'information. Mais cette information-là, Ali, contrairement à celle de la rencontre avec la presse présidentielle mardi soir, oui, elle n'est pas contrôlée et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron n'en veut plus.
Françoise.
Eh bien, le fait de la semaine, c'est un homme pour moi, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui était un peu la vedette jeudi de l'émission politique sur France 2. C'est un personnage intéressant parce qu'il est, à mon avis, emblématique du moment politique que l'on vit. Jean-Michel Blanquer est moteur dans les réformes d'Emmanuel Macron. Maternelle, primaire, secondaire, réforme du bac, aucun sujet ne lui échappe. Et pour le moment, il agit sans faux pas, ce qui est quand même un exploit compte tenu du caractère éruptif du mammouth. Sa recette, il a une vision. Il connaît son sujet par cœur et il incarne une sorte de bon sens, comme le dit François Bayrou. Bref, il fait de la politique. Mais en même temps, les Français ne le connaissent pas. Un Français sur deux est incapable de porter un jugement sur lui parce qu'il ne le connaît pas. Et l'émission dont il était la vedette n'a pas cartonné. 1,5 million de téléspectateurs, ce n'est pas beaucoup. Alors pourquoi? Peut-être parce que Jean-Michel Blanquer manque d'aspérité, qu'il incarne jusqu'à la caricature ce gouvernement de gens raisonnables voulu par le président de la République, lequel s'est acheté avec Jean-Michel Blanquer une paix royale. Pourquoi? Parce qu'il veut rester 5 ans à son poste. Il ne gagne aucun poste. Il veut faire la réforme de l'éducation nationale alors qu'on comprend que ça facilite le management intragouvernemental et que tous les jours, Emmanuel Macron et Édouard Philippe se félicitent de l'avoir choisi.
Karine.
Ce qui a marqué la semaine aussi, c'est le petit dérapage de Laurent Wauquiez.
Petit
On va voir. Alors, depuis janvier, quand même, ce Laurent Wauquiez nous avait fait quasiment une rentrée parfaite, j'ai envie de dire. Il avait... 1000 costumes de président du parti Les Républicains. Sur l'émission politique dont parlait à l'instant Françoise pour Blanquer, il l'a fait aussi. Laurent Wauquiez s'en était plutôt bien tiré. Sur le fond, en tout cas, il avait plutôt assuré. Et puis, il avait même accessoirement gagné les deux législatives partielles, là récemment, au début du mois de février. Et puis là, crac, il intervient en fin de semaine devant des étudiants à Lyon et... il se lâche à peu près sur tout le monde. Il se lâche sur Nicolas Sarkozy, il se lâche sur Gérald Darmanin, il se lâche évidemment sur Emmanuel Macron, etc. Alors, cette petite histoire révèle quand même sans doute le personnage. Pourquoi? Parce que Laurent Wauquiez a donc demandé, au moment où il commence à s'exprimer devant ses étudiants, de ne surtout pas l'enregistrer. Et donc, il a pensé que ça suffirait, qu'il suffisait qu'il dise qu'il fallait pas l'enregistrer pour que ça soit fait. Il a pensé que ces gens, que ces étudiants allaient évidemment l'écouter. Pourquoi? Bah parce que c'est lui, parce que c'est Laurent Wauquiez. C'est un politique, Laurent Wauquiez, qui est persuadé de sa supériorité, qui est persuadé de son autorité, qui est même jugé très autoritaire par son propre parti. Il a l'habitude que les élus, que ses adhérents, que ses courtisans l'écoutent au doigt et à la lettre. Et donc, sauf que là, il était devant des étudiants et qu'il a fait là une erreur de débutant.
Merci Karine. Et pour lui, quel est le fait marquant de la semaine? Le député des Hauts-de-Seine, porte-parole de La République En Marche, Gabriel Attal, s'installe dans le studio 221 de la Maison de la Radio. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bienvenue, une heure ou presque pour mieux vous connaître. Vous êtes également pointe sur la réforme de l'accès à l'université. Beaucoup de sujets qu'on va aborder avec vous. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité, Gabriel Attal?
Là, forcément, l'adoption du projet de loi sur l'orientation et la réussite des étudiants, dont j'étais rapporteur, qui est une loi importante pour l'université, pour la réussite des étudiants, pour mieux orienter les jeunes au lycée, pour faciliter l'accès à l'université, et puis pour mieux accompagner aussi dans le supérieur pour réussir. Dans une université, aujourd'hui, on a 60% d'échecs en licence, et donc il fallait réformer tout ça.
C'était vendredi, vous étiez soutenu par le principal syndicat étudiant, ça ne semble plus être le cas aujourd'hui. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais ce sera juste après le zapping politique, il est signé Laurence Perron.
Je fais ce que j'ai dit. Emmanuel Macron l'avait promis. Oust, les journalistes, fini la cour et le gravier de l'Élysée. Alors lui, il avait juré de tous les virer, le président des États-Unis, à sa prise de fonction. Alors il est là, la mèche rebelle, un Donald Trump qui refuse d'accepter une question du journaliste de CNN, journaliste qui proteste. Le président lui dit qu'il est le représentant d'une organisation de fake news.
Je prends des trains à travers la plaine.
Finalement, il les a gardés à la Maison-Blanche, comme quoi rien ne sert de crier, toujours s'en tenir aux faits et non aux fakes. Dans le genre grosse colère, celle de Jean-Luc Mélenchon, à la lecture du Monde, qui s'est intéressé à ses dépenses de campagne.
Ne croyez pas que c'est un journal, c'est un parti politique. Ce n'est pas un journal, c'est un parti politique. Et la preuve, c'est le comportement politicien qu'il a. Parce que là, quand vous ouvrez les pages, alors il y en a pour Madame Le Pen et pour moi, comme ça, vous voyez. Pas un mot sur les comptes de Monsieur Macron. Lui aussi, il a eu des dépenses qui n'ont pas été remboursées.
J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne.
Tiens, tiens, Marine Le Pen, le retour, et pas seulement pour ses comptes de campagne, pour des règlements de comptes aussi, à l'heure où Florian Philippot lance officiellement son mouvement.
Je croyais que c'était déjà fait, moi.
Il fait le lancement officiel. C'est une menace pour le Front National, ce parti, ou pas?
Non, je crois pas du tout. C'est un mouvement qui est en réalité mort-né. Je lui dis qu'il a commis une erreur. Poussé par son orgueil et par son ambition.
Dans le genre petit meurtre entre amis, les insinuations concernant le peut-être futur patron du PS, Olivier Faure obligé de se justifier sur son amitié avec Christophe Castaner et sur l'emploi de sa femme à l'Élysée.
Si il fallait reprendre François-Yves Samen ou Stéphane Le Foll, vous pensez qu'ils n'ont pas d'amis chez Emmanuel Macron? Donc ça n'a aucun sens. J'ai aussi des amis chez les Insoumis. Je vais même vous faire une confidence. J'aime les amis d'extrême gauche. Et je vais vous faire une autre confidence. Je suis né dans une famille d'extrême droite.
Mais enfin, Marie-Thérèse, comment avez-vous pu rester 5 mois sans me dire la vérité? Je voyais bien que votre ventre s'arrondissait.
Mais madame, je vous jure.
Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie.
Mais madame...
Qui dit vrai, qui ment? La nouvelle plainte contre le ministre des Comptes Publics, une femme, accuse Gérald Darmanin d'avoir négocié des faveurs sexuelles en échange d'un logement. Dans la majorité, les bons soldats montent au front. Aurore Berger, porte-parole des députés La République En Marche.
Encore une fois, il n'y a pas de deux poids deux mesures. Il y a une règle très claire qui a été dictée cet été par le Premier ministre, qui est de dire que c'est la mise en examen qui prévaut. On passe du temps d'antenne là à commenter quoi? À commenter une rumeur, à commenter une plainte que je ne connais pas, à commenter une affaire qui n'en est peut-être pas une, je ne sais pas.
Marie-Thérèse, vous êtes bien allée au bal un soir?
Mais non, madame, je vous jure, je n'ai jamais au bal.
Arrêtez de jurer, Marie-Thérèse!
Il y a aussi le marcheur troublé, c'est le cas du député François-Michel Lambert.
Qu'il s'appelle Gérald Darmanin ou qu'il s'appelle n'importe qui, que ce soit un député, que ce soit un ministre, aujourd'hui nous ne pouvons plus mentir à nos propres pairs. Je serai derrière Gérald. Évidemment, si il confirme qu'il n'a rien à se reprocher, parce que je pense que le précédent Cahuzac, il l'a bien en tête, comme nous l'avons tous en tête, nous ne pouvons plus mentir.
Alors on a envie de dire avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis.
Au sud, Merci Laurence pour le zapping et pour la voix de Bachung. Gabriel Attal, qu'est-ce que vous retenez de ces images de la semaine ?
Bah écoutez, on a beaucoup parlé de mensonges et Karine Bécart est revenue tout à l'heure sur l'enregistrement de Laurent Wauquiez. Je pense que c'est ça, en termes de mensonges, qui est important cette semaine.
Pourquoi le mensonge ?
Parce qu'on a un président d'un grand parti d'opposition qui assume de mentir quand il va sur les plateaux télé. C'est quand même ça. On entend, il s'est lâché, etc. Mais je veux dire, c'est quand même grave ce qu'il y a dans cet enregistrement. Il dit, oui, quand je vais sur les plateaux télé, je mens. On n'attend pas ça du président du premier parti d'opposition. Et il dit ensuite, c'est très grave aussi, il accuse Nicolas Sarkozy d'avoir mis en place un système d'écoute illicite de ses ministres. Et moi, j'attends quand même qu'il nous explique un peu mieux ses propos, parce que là, on a eu un commentaire lapidaire. Soit il a mis en lumière un vrai système d'écoute illicite, et à ce moment-là, il faut le dire. Soit il a diffamé Nicolas Sarkozy, et à ce moment-là, il faut le dire aussi.
Il accuse également Emmanuel Macron d'avoir torpillé la candidature de François Fillon.
Oui, bah, c'est pas nouveau. On avait entendu déjà ce type de propos de la part de certaines personnalités des Républicains. C'est la théorie du complot en permanence pour essayer de se dédouaner d'un certain nombre de choses. C'est pas au niveau, je veux dire, il y a un ramassis de bêtises dans là-dedans, mais il y a des choses graves quand même. Et moi, je trouve que Laurent Wauquiez doit s'expliquer, que pour l'instant, il l'a pas fait.
Vous ne vous dites pas, ah si les politiques parlaient enfin vraiment comme ils parlent en off, quand ils parlent quand les caméras ne sont pas allumées et les micros fermés?
Mais c'est ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, c'est aussi quand les...
Ça vous est jamais arrivé d'entendre des propos
c'est ce
plus
que beaucoup
outranciers
font, c'est ce que
micro.
Beaucoup font.
Ça ne vous est jamais arrivé d'entendre ou de dire des propos non, mais plus outranciers que lorsque les micros sont allumés?
Attendez, qu'on se lâche hors micro, comme a dit Karine Bécart, qu'on ait un mot un peu maladroit, un peu vulgaire, ça peut arriver, on est des hommes et des femmes comme les autres. Qu'on ait des propos comme ça, d'assumer, de mentir sur les plateaux télé quand on est le président du premier parti d'opposition, qu'on accuse un ancien président de la République d'avoir mis en place un système d'écoute illicite, ou alors qu'on le diffame, on n'est pas dans des petits propos outranciers. Non, il faut assumer. Il faut assumer et qu'il s'explique sur ses propos.
En tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle pour La République En Marche et pour le président, parce qu'il commençait à finalement prendre un peu ses aises, enfin trouver vraiment ses marques. Laurent Wauquiez devenait dangereux, peut-être même pour Emmanuel Macron. Donc ça le remet à sa place.
C'est pas une bonne nouvelle, parce que c'est pas une bonne nouvelle pour la classe politique d'une manière générale. Parce que ça jette le soupçon et ça laisse penser que les gens vont mentir sur les plateaux télé, qu'on s'attaque, que faut peut-être un peu redescendre d'un cran.
Mais est-ce qu'il n'y a pas d'un côté le loup et l'agneau et vous présentez comme on ment jamais, on est authentique, on est bien. Est-ce que vous pouvez vraiment assurer que vous n'avez jamais menti?
Écoutez, moi, je mens pas. Ça peut arriver de se tromper, hein, sur une date, sur un mot. Je mens pas. J'essaye de dire les choses quand même assez clairement. Je fais attention quand même à ma manière de m'exprimer aussi. C'est normal quand on est sur une radio, sur une télévision. Mais ce qui
mais
est sûr,
vous dites toujours le fond de votre pensée, c'est ça la question.
Oui, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que La République En Marche, on a quand même procédé à un renouvellement très important des responsables politiques. Vous regardez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dans notre groupe, on est 312. Il y a que 24 anciens députés. Tout le reste, c'est du renouvellement. C'est des personnes qui n'avaient pas été parlementaires avant. Bah forcément, ça amène aussi un peu de fraîcheur et un peu de nouveauté dans...
Vous êtes aussi des professionnels des éléments de langage et de la langue de bois. On va y venir parce que ça fait partie aussi de la manière de s'exprimer de ce groupe La République En Marche à l'Assemblée et ailleurs. Mais d'abord, votre portrait, Gabriel Attal, il est signé Karine Bécart.
Gabriel Attal, quand vous avez été élu député en juin dernier, dites-moi si je me trompe, mais vous avez tout de suite affirmé, et cela avait l'air assez spontané, que non, vous ne passerez pas, vous, en bon disciple d'Emmanuel Macron, les 30 prochaines années à faire de la politique.
Les
30 prochaines années, peut-être, mais si vous acceptez de regarder un instant en arrière, vous lui avez tout de même déjà consacré les 6 dernières. Parce
Absolument.
Qu'à peine sorti de Sciences Po, Gabriel Attal, où êtes-vous allé ? Directement à l'Assemblée. Et c'est exactement ce que vous vouliez. Vous aviez 22 ans. Marisol Touraine, députée strauss-kahnienne, future ministre de la Santé, vous a gentiment pris sous son aile. Elle vous a gardé à l'époque lors de la précédente campagne présidentielle et puis vous êtes resté pendant 5 ans attaché à son cabinet ministériel. La preuve, avec un tel parcours, d'abord socialiste donc, et désormais macroniste, que vous avez toujours voulu faire de la politique et devenir député, Gabriel Attal, eh bien vous en rêviez. C'est amusant, vous savez, de vous observer dans l'hémicycle. Vous avez le sens de la réplique, vous connaissez à 28 ans, bientôt 29, assez bien vos dossiers, et contrairement à d'autres, dans la majorité, vous êtes plutôt médiatique. Pas étonnant finalement que le conseiller municipal de Vanves, ce que vous êtes également, vienne d'être nommé porte-parole du mouvement La République En Marche. Simplement, si vous me permettez, vous vous méfierez de ne pas trop vite donner l'impression de cumuler les fonctions.
Réaction, commentaire, Gabriel Attal.
Oui, moi, c'est sûr que dans le renouvellement qu'il y a à l'Assemblée nationale, il y a des personnes qui viennent de la société civile, qui n'avaient jamais eu d'engagement politique, et il y en a d'autres dont je fais partie qui avaient eu un engagement. Moi, j'ai toujours eu envie de m'engager. J'ai commencé au lycée, j'ai poursuivi pendant mes études, d'abord dans des associations, après en politique, j'ai rejoint le Parti Socialiste, qui était le parti le plus proche de mes idées, et puis Emmanuel Macron a créé La République en marche à l'époque, et je l'ai rejoint immédiatement dans les premiers jours de la création.
Mais du coup, quand vous dites, je ferai pas 30 ans de politique, vous avez envie d'en faire quand même un petit peu longtemps. De toute façon, 30 ans maintenant, c'est plus possible, mais vous auriez aimé que ça dure.
C'est que j'ai envie de faire de la politique, j'ai eu envie d'être député, sinon je ne me serais pas présenté quand on sait à quel point une campagne est dure. Parce que j'ai envie de contribuer avec Emmanuel Macron au plan de transformation qu'il a proposé aux Français et pour lesquels les Français ont voté. Et j'ai envie de l'aider à transformer ce pays. Par contre, ce qui est certain, c'est que je ne passerai pas ma vie en politique. D'abord, comme vous l'avez dit, parce que c'est plus possible, ça sera plus possible et heureusement, parce qu'on va interdire le cumul des mandats dans le temps. On va limiter ça à 3 mandats. Et ça, c'est quelque chose de très important pour permettre le renouvellement. Et ensuite, parce que personnellement, j'ai pas envie. Comme vous l'avez dit, j'ai eu une expérience politique avant. J'en ai vu des élus qui étaient là depuis 20, 30, 40, 50 ans parfois en politique. Oui. Et honnêtement, ça me fait pas envie. Vraiment
dont
pas.
Celui à qui vous avez succédé d'ailleurs à l'Assemblée, puisque c'était André Santini qui a été l'élu de votre circonscription depuis 30 ans quand vous l'avez remplacé.
Qui est toujours maire d'ici les Moulineaux.
Il est toujours maire d'ici les Moulineaux. Françoise Fressoz.
Vous dites j'ai envie de transformer le pays, mais est-ce que vous êtes vraiment armé pour le transformer? Nous, on a l'impression en tant qu'observateur que tout se passe dans l'exécutif, gouvernement, et qu'au fond, au Parlement, vous êtes un peu réduit au rôle de godillot. Il faut dire que tout ce qui est fait le gouvernement est bien.
Non, c'est un débat qu'on entend quand même depuis un certain nombre de mois. On l'a entendu tout de suite après notre élection. Je pense que c'est parce qu'il y a un changement de paradigme et qu'il y a un changement de la manière de faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que député de la majorité, on travaille beaucoup avec le gouvernement en amont de la présentation des textes à l'Assemblée nationale. Vous aviez été habitué, en tant qu'observateur politique, à voir de la fronde, à voir des chamailleries dans l'hémicycle, à côté de l'hémicycle, sur tel ou tel amendement, tel ou tel article. Nous, parce qu'on veut être efficace, on travaille en amont avec le gouvernement. On prépare l'arrivée des textes au Parlement. Donc forcément, ça change aussi votre manière d'observer les
d'accord,
choses.
D'accord, mais vous êtes un peu coincé quand même, parce que vous lui devez tout à Emmanuel Macron. Vos investitures, votre élection. C'est compliqué de contester.
Le sujet, c'est pas qu'on doit tout à une personne, c'est qu'on doit tout aux électeurs qui nous ont fait confiance. Et pourquoi moi j'ai été élu à Issy-les-Moulineaux, à Vanves, à Boulogne, à Meudon? Pourquoi est-ce que les électeurs ont voté pour moi?
Parce qu'ils voulaient des députés macronistes.
Parce qu'ils voulaient qu'on applique le programme du président de la République.
Gabriel Attal, moi j'ai lu dans le journal Le Monde, chère Françoise, que vous faites partie d'un petit groupe de députés qui forment un peu la garde avancée d'Emmanuel Macron à l'Assemblée, qui ne dépendent que de lui, qui ne rendent de compte qu'à lui-même. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que vous avez un rapport privilégié avec le président? Vous pouvez nous le dire.
Il n'y a pas de garde avancée d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous avez un rapport direct avec lui? La garde avancée, c'est 312 députés.
Oui. Mais les journalistes parlent d'équipes commando, de snipers, et à chaque fois on vous retrouve dans ces portraits ou dans ces descriptions politiques.
Vous confirmez cet accès privilégié?
Non, il n'y a pas d'accès privilégié. Ce qui est certain, c'est qu'on est quelques députés à aller davantage peut-être dans les médias que les autres, parce que assez tôt on s'est senti plus à l'aise pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'on a un accès privilégié ou qu'on est privilégié d'une quelconque manière que ce soit. Et moi, ce que je souhaite et ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de députés qui...
Vous n'avez plus de relations avec Emmanuel Macron?
J'ai des relations en tant que député.
Vous lui envoyez des textos ou pas? Parce qu'il y a les députés qui lui envoient des textos et auxquels il répond, puis les députés qui ont moins la chance de pouvoir lui envoyer des textos.
Vous
pouvez
nous dire juste l'état de vos relations avec le président?
Laissez-le répondre.
L'état de mes relations avec le président. Je suis député. Je suis chef de file de La République En Marche pour la commission culture éducation.
On y reviendra peut-être.
À ce titre-là, je suis membre du bureau du groupe à l'Assemblée et maintenant je suis porte-parole de La République En Marche. À ce titre-là, forcément, il y a des réunions de travail, il y a une réunion avec ma commission à laquelle j'étais, à laquelle on a échangé. Il y a des réunions où on peut le rencontrer, échanger avec lui. C'est dans ce cadre-là que les choses se font.
Il n'y a pas si longtemps, vous étiez au Parti Socialiste, vous étiez au cabinet de Marisol Touraine. Qu'est-ce qui reste de votre engagement au PS? Est-ce que vous pourriez vous dire aujourd'hui encore de gauche?
Oui, moi je viens de la gauche et j'ai absolument aucun problème avec ça. Vous savez, moi j'étais au PS. Encore une fois, c'était le mouvement le plus proche de mes idées. Mais j'ai toujours considéré que les grands partis de gouvernement, comme on dit, les Républicains, avant l'UMP, le RPR, le Parti Socialiste, ils ont été créés à un moment quand même qui n'est pas du tout celui dans lequel on vit aujourd'hui. Quand ils ont été créés, on ne se posait pas la question de la transition numérique et de son impact sur le monde du travail. On ne se posait pas la question de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de l'environnement. On ne se posait pas la question de la lutte contre le terrorisme, comme on se la pose aujourd'hui, des flux migratoires, comme on se la pose aujourd'hui. Et tous ces nouveaux enjeux, ils appellent des nouvelles réponses.
Donc, le PS, c'est une forme archaïque, il est destiné à mourir.
Non, je dis pas ça. En tout cas, moi, je souhaite pas qu'il meure. Je souhaite pour la démocratie qu'on ait quand même des partis républicains qui soient suffisamment forts pour proposer une alternative et pour faire des propositions dans le débat public.
Olivier Faure ferait un bon patron du PS?
Moi, je porte pas de jugement. Je sais
très
bien.
Il y a pas si longtemps, vous étiez engagé dans ces batailles.
Je porte pas de jugement. C'est aux militants du PS, dont je ne fais plus partie, de décider qui sera leur nouveau chef.
Françoise.
Il y a un projet de loi en ce moment qui met un peu de dissension dans le groupe. C'est le projet de loi sur l'immigration, le droit d'asile. Est-ce que vous sentez à cette occasion ressurgir un peu tout le passé des députés, d'anciens députés socialistes qui se sentent mal à l'aise? Et vous-même, est-ce que vous êtes en porte-à-faux avec ce texte?
Non.
Gabriel
D'abord,
Attal.
La première chose que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de texte pour l'instant, puisqu'il sera en Conseil des ministres le 21 février.
Mais il y a une ligne.
Il y a une ligne qui a été donnée par le gouvernement, et moi, je n'ai pas de difficulté avec cette ligne, pour peu qu'on l'explique bien et qu'on la développe
vraiment
dans l'ensemble de ces dimensions. La ligne, c'est quoi? En tout cas, moi, ce que je crois, c'est quoi? C'est de dire que, d'abord, les migrations, les flux migratoires, c'est un fait. On peut pas être considérer qu'on peut les voir disparaître ou les mettre sous le tapis. C'est un fait. Il y a des perturbations dans le monde entier et forcément, il y a des mouvements de population. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder ce qui se passe pour la France. 100 000 personnes qui demandent l'asile en 2017, c'est deux fois plus qu'il y a 7 ans. C'était 50 000 avant. Et donc, il faut se rendre à l'évidence, il faut avoir un constat qui est de dire que on ne peut pas accueillir tout le monde. Et ça, peut-être que des gouvernements précédents ont refusé de le dire, peut-être que des majorités précédentes ont refusé de le dire, qu'il y a eu une hypocrisie, mais si on voulait accueillir tout le monde, il faudra créer une ville supplémentaire en France chaque année. 100 000
personnes. Donc il faut des quotas.
Non, donc il faut se donner des priorités. Et il faut fixer une ligne. Et la ligne, elle a été fixée par Emmanuel Macron, qui est de dire que tous ceux qui fuient la guerre et les persécutions, les réfugiés, on les accueille, mais non seulement on les accueille, mais on les intègre. Parce que la réalité, c'est que jusqu'à maintenant, personne ne peut nier cette réalité, la France échouait partout. On échouait à intégrer et à accueillir les réfugiés, on échouait à donner des conditions d'accueil dignes aux migrants qui ne sont pas des réfugiés, parce qu'ils ont le droit aussi à de la dignité. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je veux insister. On échouait à faire ça, et on échouait à éloigner ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Et on laissait tout ça dans une espèce d'hypocrisie, avec des situations dramatiques, individuelles,
aucun état d'âme, Gabriel Attal, aucun état d'âme lorsque vous voyez des migrants triés dans des centres d'hébergement d'urgence, aucun état d'âme lorsque vous voyez des CRS ou des policiers déchirer des matelas, des tentes, des sacs de couchage. Vous n'avez aucun sentiment, aucun état d'âme.
Moi, je vais vous dire, on peut prendre les sujets les uns après les autres. Je pense qu'il faut être clair sur tous les sujets. D'abord, sur les centres d'hébergement, on peut revenir sur ce sujet-là dont on a parlé quand même beaucoup. Il n'y a pas de tri. Il y a une information qui est donnée.
Bon,
ça, c'est le premier
chacun
point.
Chacun se fera son avis, les associations qui viennent en aide.
Sur ce qui se passe sur les accusations qu'il y a sur certains policiers, moi, je reste sur la ligne. Évidemment que c'est insupportable d'imaginer qu'il puisse y avoir des agressions sur des migrants.
Mais c'est pas de l'imagination.
À chaque fois qu'il y a un fait qui est constaté, il faut saisir la justice. Vous savez, il y a un policier, je crois que c'était il y a 6 mois ou un an, qui a giflé un migrant. Ça a été documenté, il y a la justice qui est passée et il y a eu une sanction très ferme été prise. Ouais, à chaque fois, il faut saisir la justice. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il n'y a absolument pas de demande d'aller pourchasser les migrants avec ce type d'acte. Ça n'est pas vrai.
Les associations délirent. La CIMAD, Médecins sans frontières, Médecins du Monde, toutes les autres, elles délirent lorsqu'elles sont révoltées par la manière dont sont traités ceux qui sont sur notre sol.
Mais je veux dire, les associations, elles sont dans leur rôle, elles défendent aussi les droits des personnes qui arrivent sur notre sol. Moi, ce que je refuse, c'est l'instrumentalisation. C'est quand il y a un dérapage, quand il y a quelque chose d'inacceptable, on n'en fasse pas une généralité parce que ça n'est pas vrai. Il y a pas de, enfin, ce qu'on demande aux policiers, mais à tous les acteurs de l'immigration et de l'intégration, c'est de la dignité. Et c'est pour ça qu'on crée d'ailleurs des places d'hébergement supplémentaires pour que l'ensemble des personnes qui arrivent sur le territoire, qu'elles soient réfugiées ou pas, on puisse les accueillir. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. On fait beaucoup la distinction entre réfugiés et migrants. Et c'est normal parce qu'il y a un fait générateur au départ de la migration qui n'est pas le même. Mais moi, en tant que jeune de bientôt 29 ans, je ne peux pas en vouloir à un jeune africain de 29 ans, d'où qu'il vienne, de vouloir venir chercher une vie meilleure en Europe. Je ne peux pas lui en vouloir par principe. La vraie différence, c'est ça quand même, depuis quelques années. C'est qu'aujourd'hui, on a Internet, on a le numérique, qui fait que où qu'on soit dans le monde, on voit qu'on peut accéder à une vie meilleure si on se déplace.
Mais parlons un petit peu quand même de
ce sujet, c'est la dignité.
La question de François, c'était ce qui se passe à l'intérieur de la majorité. On sent bien quand même que dans votre majorité de 312 députés, il y a quand même quelques états d'âme. Il y a ce fameux pôle social qui essaye de se faire entendre, et notamment également sur cette loi droit d'asile, immigration et intégration. Est-ce que vous vous sentez proche finalement de ce pôle social, et est-ce que vous ne redoutez pas malgré tout une cassure de la part de certains
au sein de la majorité? Je me permettrais de dire que c'est assez cocasse d'un côté nous dire qu'on est godillot, vous nous accusez d'être godillots, et de l'autre, quand il y a des propositions ou qu'il y a des dissensions, il peut y en avoir sur un point ou un autre, nous accuser tout de suite d'être dans une espèce de fronde. Juste, en fait, il y a un juste milieu entre ça, c'est juste exercer son droit de parlementaire et de proposer et de poser des questions sur un certain nombre de points avec lesquels on est en désaccord.
Ce pôle social existe et je veux savoir voilà, ce que vous en pensez, si vous vous sentez parfois proche d'eux quand même.
Moi, je vais vous dire, je ne considère pas avoir à être dans aucun club, que ce soit au sein de La République En Marche. Je veux dire, la force de notre mouvement, ce pourquoi les Français ont voté, c'est justement parce qu'on a des personnes dont certaines viennent de la gauche, dont certaines viennent de la droite, dont certaines n'avaient jamais été engagées en politique, se disent à un moment de notre histoire, on peut se retrousser les manches et travailler ensemble sur un socle de réformes sur lesquelles on s'est mis d'accord et sur lesquelles les Français ont voté. Donc il n'y a pas à faire de club social, aile gauche ou quoi que ce soit.
Non, mais il y a des sensibilités malgré tout qui s'expriment.
Mais il peut y avoir des sensibilités individuelles et on les exprime et on l'a fait. Je veux dire, on le fait sur chaque texte, sur chaque texte.
Alors justement,
il y a des évolutions
au Parlement. Très concrètement, vous dites exerçons notre droit de parlementaire. Très concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans le texte de Gérard Collomb?
Encore une fois, le texte n'a pas été transmis à l'Assemblée nationale. Il n'est pas passé en Conseil des ministres. Donc, sur le côté textuel, moi, je ne peux pas là vous dire ce qu'il faut améliorer. En revanche, ce qu'on va faire, c'est renforcer le volet intégration pour les réfugiés. Parce que, si on revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, on a aujourd'hui un vrai constat d'échec sur l'intégration des réfugiés en France. La réalité, c'est qu'on met en moyenne entre 1,5 et 2 ans à traiter la demande d'asile.
Mais la réalité, c'est qu'Aurélien Taché a eu un rapport à écrire sur l'intégration et qu'il est sans cesse, toutes les semaines, reporté. Normalement, il doit l'être demain remis au Premier ministre, mais visiblement, là, on sent que chez Gérard Collomb, ça bloque un peu.
Non, je pense qu'il veut bien ficeler son travail, ça sera remis. Moi, ce que je souhaite...
Il dit qu'il est prêt depuis des semaines.
Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avancer dans cette direction. Moi, par exemple,
concrètement,
je vais vous dire,
ça veut dire quoi,
très concrètement, moi, je trouverais ça positif qu'on puisse permettre à des demandeurs d'asile, donc qui n'ont pas encore le statut de réfugié, de commencer à travailler avec un permis de travail et de commencer à avoir des cours de français. En moyenne, aujourd'hui, en France, un réfugié, il commence à avoir ses premiers cours de français 2 ans et demi après son arrivée sur le territoire. Vous considérez que c'est normal que quelqu'un à qui on dit vous avez vocation à rester sur le territoire, on vous intègre, on attend 2 ans et demi avant qu'il puisse commencer à avoir des cours de français. On a un volume horaire de cours de français qui est limité à 200 heures. 200 heures, c'est ce qu'on appelle le niveau A1. C'est se présenter, dire bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis député. Voilà, c'est ça le niveau A1. En Allemagne, c'est 600 à 900 heures de cours d'allemand. Il faut avancer aussi là-dessus. Donc il faut qu'on prenne de l'avance. On va réduire les délais pour que la réponse sur le statut de réfugié soit donnée en 6 mois. Et moi, je pense que, en tout cas, pour un certain nombre de pays d'origine...
Et il y a le problème des Dublinés, puisque celui qui est sur le sol français, qui est entré dans l'Union européenne sur un autre territoire, on va devoir le renvoyer. Donc, votre proposition, c'est un vœu pieux pour tout cela, tous les Dublinés.
Oui, écoutez, la situation des Dublinés, elle est réglée elle est gérée au niveau européen. Il y a un texte qui est passé dans l'hémicycle. On y reviendra dans le cadre de la loi asile-immigration sur un certain nombre de points. Tout ça, c'est quand même une politique cohérente. C'est ça sur quoi je veux insister. Et il ne faut pas mettre en avant en permanence un bout de ce qui a été annoncé. Il faut aussi regarder dans l'ensemble ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire.
Est-ce que vous partagez le constat qu'Emmanuel Macron et le gouvernement vont dans ce sujet sans barrière parce qu'ils savent que l'opinion publique soutient ces mesures de fermeté par rapport aux migrants et que même s'il y a des associations de gauche, entre guillemets, qui les critiquent, eh bien ce n'est pas un problème. C'est ce qui avait été dit notamment lors de sa visite à Calais.
Je vais vous dire, si Édouard Philippe et Emmanuel Macron avaient le nez rivé sur les sondages et sur les opinions des uns et des autres sur telle ou telle mesure, il y a certaines mesures qu'on n'aurait peut-être pas prises, qu'on a prises parce qu'il fallait être courageux, parce qu'elles vont dans le sens de l'intérêt général. Les 80 km/h, par exemple, on les aurait pas prises si on ne pensait qu'au sondage.
L'opinion publique approuve plutôt la politique de Gérard Collomb.
Mais elle applique. Pourquoi l'opinion publique soutient cette politique? Parce qu'il y a un constat d'inefficacité et d'échec que j'ai développé tout à l'heure. Parce que l'opinion publique, elle voit bien qu'on n'arrive pas à intégrer des réfugiés, qu'on n'arrive pas à traiter les demandes des migrants qui sont sur le territoire et qu'on laisse se développer des jungles et des gens qui errent sur le territoire, y compris pour eux, sans savoir ce qu'ils vont devenir. Elle le voit. Et donc forcément, elle soutient l'idée qu'il faut avancer et aller vers plus d'efficacité.
Le député La République En Marche est l'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info ce dimanche.
France Inter, Ali Badou. Questions politiques.
Et parmi les questions politiques et d'actualité, Gabriel Attal, il y a évidemment celle qui se pose autour du service national et après une cacophonie gouvernementale, Françoise.
Oui, alors là, on n'y comprend plus rien parce que c'est un projet qui est voulu par Emmanuel Macron et depuis qu'il l'a voulu, on entend tout et son contraire au gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous vendre le projet qui va être réalisé ou pas ?
Gabriel Attal.
C'est vrai qu'on sort là d'une période où il y a eu des expressions, à la fois au gouvernement, à l'Assemblée, un peu diverses, voire parfois divergentes sur ce sujet. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est normal. On est sur un bouleversement structurel, un changement sociétal tel que c'est normal qu'il y ait des idées qui arrivent de part et d'autre et qu'il y ait une réflexion collective. Ce qui est clair, c'est que Emmanuel Macron a pris un engagement pendant la campagne présidentielle. Il vous aura pas échappé que depuis qu'on est là, il n'y a pas un seul engagement qui n'ait pas été tenu. On tient tous nos engagements et que c'est la ligne de conduite de
l'école.
Zéro SDF dans la rue.
Sur les écoles, ça n'a pas été tenu. Il l'a reconnu lui-même.
Dans la rue, c'est un objectif. C'était un objectif. C'était pas une mesure. C'était un objectif. Il a reconnu.
C'était prononcé au futur et non pas au conditionnel.
Il a reconnu qu'il n'était pas atteint.
Il a reconnu lui-même.
Vous prenez sur tout.
Il a reconnu Gabriel Attal.
Oui, sur l'école, on y reviendra peut-être. Sur l'université, sur tous ces sujets-là, il n'y a pas une chose qu'on fait qui ne soit pas un engagement d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Emmanuel Macron, pendant la campagne, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il faut retrouver un moment collectif pour permettre à une classe d'âge de se retrouver, d'avoir un peu de mixité sociale, de cohésion générationnelle, d'avoir un point de contact avec les armées, parce que c'est important pour renforcer le lien armée-nation, pour transmettre un certain nombre de valeurs de citoyenneté. Il avait fixé ce service national un mois, il avait donné une classe d'âge, 18-21 ans, et il avait donné un certain nombre de détails. À partir de là, je l'ai dit, on est sur un bouleversement majeur. Donc forcément, il faut du travail. Et donc, il y a un groupe de travail qui a été mis en place par le gouvernement, un groupe d'experts. Il n'y a pas de politique dedans. C'est des gens du terrain qui viennent des armées, qui viennent des politiques de jeunesse, qui sont engagés.
Alors, dites-nous vos convictions.
Est-ce qu'il se réunit la semaine prochaine ?
Ça doit être obligatoire.
Il va remettre une proposition opérationnelle fin avril.
Est-ce que vous pensez que ça doit être obligatoire et de quelle durée ?
Oui, moi je pense qu'il faut que ce soit obligatoire. Je pense que la durée d'un mois qui avait été annoncée pendant la campagne est une durée qui me semble satisfaisante.
Entre 3 et 6 mois, dit le président.
Mais parce qu'on peut aller, plus loin si on considère qu'on lui fixe d'autres objectifs. Moi, ça ne me choquerait pas. Encore une fois, les objectifs...
3 mois, 6 mois, ça fait une différence de plusieurs millions d'euros, Gabriel Attal. Donc c'est quand même des notions extrêmement précises dans lesquelles on a plutôt du flou.
Mais moi, je vais vous dire, je trouve ça très bien que le président de la République et que le gouvernement laissent la porte ouverte et laissent le plus de marge possible au groupe d'experts qui va travailler pour déterminer ce qui est la meilleure durée et ce qui est la meilleure organisation. Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est la mixité sociale, c'est le renforcement du lien armée-nation, c'est aussi l'engagement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, vous regardez les jeunes, c'est une classe d'âge qui veut s'engager. Toutes les études le montrent. Mmh. Elle veut s'engager plus peut-être que d'autres catégories de la population.
Mais dans le militaire, plus et il faut que dans le militaire.
Dans le civique, dans l'associatif. Mais il faut que ce moment, ça soit aussi une porte ouverte vers le service civique, vers l'engagement associatif.
Et donc la structure...
On va laisser aussi parler Françoise Fressoz qui voulait intervenir sur le sujet.
Vous ne trouvez pas un peu curieux que l'armée, qui est quand même le principal ministère concerné, dise non, nous, finalement, on ne veut pas que ce soit obligatoire. Puis on a même l'impression que ça les gêne parce qu'au fond, maintenant, on est devenu une armée de métier et que finalement, c'est peut-être plus leur mission d'intégrer des jeunes dans l'engagement voulu par le président de la République.
Gabriel Attal.
Je crois pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une inquiétude budgétaire. Ça, ce serait mentir que de le dire. L'armée a dit, on ne veut pas payer. Et ce qu'on comprend, parce qu'il y a des investissements importants à faire pour l'armée,
plus, hein,
d'ailleurs,
parce qu'il y a
on met l'argent pour le faire. Donc Emmanuel Macron s'est engagé à ce que ce ne soit pas le ministère des Armées qui soit mis à contribution. En revanche, moi je n'entends absolument pas des militaires l'idée de dire qu'ils n'ont pas de vocation à être au contact des jeunes et à les former. D'ailleurs, il y a des dispositifs, le service militaire volontaire, le service militaire adapté, qui fonctionnent très bien, qui ont été mis en place par l'armée et qui tournent extrêmement bien. Donc il faut avancer.
Karine.
On a une situation financière aujourd'hui qui nous le permet parce que Jacques Chirac en 96, quand il l'abandonne, c'est pour des raisons budgétaires. On sait que notre situation financière, elle est quand même compliquée et donc financièrement, on peut l'assumer.
Moi, je ne compare pas ce service national avec le service militaire tel qu'il existait au moment où il a été abandonné. C'est pas les mêmes missions, c'est pas les mêmes objectifs. On n'a pas
mais
besoin.
Mais vous laissez entendre que ça peut être encadré par des militaires.
Je pense qu'il faut un point de contact. Alors avec les militaires, moi, à titre personnel, je pense qu'on peut l'étendre à l'ensemble des corps en uniforme. C'est-à-dire y compris les pompiers, les gendarmes, les policiers, parce que ils ont aussi un rôle de soldats de la République sur le territoire. L'uniforme, c'est aussi un des premiers symboles républicains qu'on voit quand on se déplace. Et donc, ça me semble important qu'il puisse y avoir ce contact. Mais il ne s'agit pas de former 800 000 jeunes par an à manier les armes. Ça n'aurait pas de sens. On n'en a pas besoin. Donc, encore une fois, je ne vais pas redire les missions, mais c'est mixité générationnelle,
oui, vous l'avez
engagement.
Déjà dit.
Oui, mais je le redis, parce que c'est important. Il ne faut pas laisser de doute sur
cette question. Et pas de dortoir mixte. Gérard Collomb disait qu'il n'y en aurait pas, il était assis à votre place il y a quelques semaines.
Gérard Collomb a plus d'informations que moi alors. Moi, je vais pas.
Ah non, c'est un désir, en l'occurrence, votre souhait.
Moi, je vais.
Ça vous choquera ou pas ?
Qu'il y ait des dortoirs mixtes ?
Bah oui, c'est ça la question.
Je pense que on peut garder des dortoirs. Non, mais je vais vous dire.
Il n'avait pas pensé à la question.
Je vais vous dire, j'ai pas de problème à m'exprimer. Je veux juste pas donner le sentiment, alors qu'il y a un groupe d'experts qui se met autour de la table pour justement travailler sur ces questions, de le bypasser en donnant.
Pardon,
des
Gabriel Attal, mais est-ce que vous
avez changé de sujet?
Oui, non, mais évaluer quand même ce qu'une coupure de 3 ou 6 mois va impliquer pour les jeunes. Et Emmanuel Macron en a parlé lui-même, qui ont entamé un cursus universitaire. Est-ce qu'on va pas assister à ce qui se pratiquait jusqu'à la fin du service national? Dans les années 90, à des catégories de jeunes qui feront leur service parce qu'ils ne pourront pas faire autrement, et puis d'autres qui ne voudront pas bousculer leurs études, ou tout simplement qui n'en auront pas envie et qui se feront exempter. Est-ce que ce risque-là ne va pas revenir comme il existait pendant des années, des décennies?
C'est justement l'idée, et moi je reviens, quand je parlais du constat d'échec sur le fils militaire, c'est celui-là. C'est quand même qu'à la fin, il y avait quand même beaucoup de gens qui s'en faisaient exempter, donc l'objectif de mixité sociale,
il
n'existait
pas.
Plus.
Ça sera toujours une
coupure. Mais parce qu'on va mettre en place les choses de manière à ce qu'on n'en arrive pas à là. Vous dites interrompre leurs études. On ne sait pas encore exactement à quel âge ça aura lieu, on ne sait pas comment ça va être organisé. Par ailleurs, ce qu'on essaye de développer beaucoup avec Frédéric Vidal, on y reviendra peut-être, c'est quand même l'idée qu'on peut valoriser dans le cadre de son cursus et de ses études des expériences qu'on a eues. Typiquement, aujourd'hui, quand on fait un service civique, on a des expériences de terrain, de compétences qui doivent pouvoir être valorisées dans le cadre de son cursus. Est-ce qu'avec ce service national, on aura une valorisation possible dans le cadre de son cursus universitaire? C'est possible. Moi, je laisse toutes les portes ouvertes pour le groupe de travail.
Gabriel Attal, vous étiez aussi celui qui portait le projet de loi sur l'orientation des étudiants, texte important qui donc a reçu l'ultime feu vert de l'Assemblée cette semaine, c'était jeudi dernier. Il y avait le principal syndicat étudiant, la FAGE, qui vous soutenait, et puis là, tout à coup, on découvre que ce syndicat-là ne vous soutient plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous perdiez le soutien d'un élément essentiel de ceux qui vont porter ensuite la réforme?
Premier syndicat étudiant, la FAGE, a annoncé son soutien très tôt à la réforme du gouvernement. Il l'a soutenu tout au long de son examen au Parlement. Pourquoi ? Parce qu'on s'attaque à des sujets majeurs, l'orientation, l'accès à l'université, la réussite à l'université, en donnant enfin des parcours adaptés, des accompagnements personnalisés pour permettre de réussir. Face à un constat d'échec, on a 60 à 70% d'échecs en licence. Ça, c'est le constat.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Il y a eu une discussion entre l'Assemblée et le Sénat. Le Sénat a adopté un texte qu'il a modifié sur un certain nombre de points.
Qui ne vous satisfaisait pas.
Je ne vais pas revenir dessus. Qui ne nous satisfaisait pas, nous, en tant que députés. On a beaucoup travaillé ensemble avec le sénateur Jacques Grosperrin, qui était rapporteur au Sénat, à qui je veux rendre hommage, parce que sans tabou, sans sectarisme, vraiment, on s'est mis autour de la table et on s'est dit comment faire pour qu'on adopte un texte à l'Assemblée, au Sénat, en se mettant d'accord, alors qu'on ne vient pas des partis, qu'on vient de partis ou de mouvements différents, juste parce que c'est l'intérêt des jeunes. Et qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont en terminale, ils ont juste envie.
Bon, le syndicat qui représente justement les jeunes et les jeunes étudiants, en l'occurrence, vous avez perdu son soutien, pourquoi?
Dans le cadre de ce texte de compromis, il y a eu une évolution sur un article.
Important.
Pour être très clair, le Sénat avait adopté un article qui disait on va fixer les capacités d'accueil dans les universités en tenant compte de l'insertion professionnelle des différentes filières.
En fonction des débouchés d'emploi.
Absolument. Nous, on a dit qu'on n'était pas d'accord et que ça ne pouvait pas être le seul critère. Au moment où on s'interroge, on dit qu'il y a des nouveaux métiers, que les métiers de demain ne sont pas ceux d'aujourd'hui, ça n'a aucun sens d'avoir un adéquationnisme entre la première année de licence et le marché du travail.
Donc pourquoi vous avez lâché ?
Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a modifié cet article. On est arrivé à une solution de compromis. On a rajouté dans les critères qui permettent de fixer les capacités d'accueil le choix des candidats, le choix des terminales, des lycéens qui veulent aller dans le supérieur, et le choix des universités elles-mêmes, parce que dans leur formation académique universitaire, elles sont aussi les mieux à même de savoir comment anticiper la société de demain et quelle filière il faut privilégier.
Vous ne répondez pas à Françoise, en l'occurrence, pourquoi avez-vous perdu
l'idée, c'était quand même, c'est important d'expliquer les choses, quand même. Donc là, j'en arrive à là, et la FAGE, le premier syndicat, est inquiète. Alors qu'elle considère que dans l'article tel qu'il a été adopté, il y a un critère, même si ça n'est plus le seul, qui est les débouchés professionnels. Ils vont rencontrer la ministre Frédéric Vidal demain. Ils vont avoir un échange. Moi, je souhaite qu'on puisse lever ces inquiétudes. Et je pense qu'on peut y arriver.
Parce que pour l'instant, ils menacent de se mobiliser, quand même. Ils menacent de manifester.
Encore une fois, je pense qu'on peut arriver à lever ces inquiétudes. Et je pense que la ministre est pleinement
Vous citiez Jacques Grosperrin, le rapporteur au Sénat, qui est membre des Républicains. Il a dit, je le cite, « La sélection est une chance. Elle représente une solution juste et égalitaire, profondément républicaine, gage de réussite pour les étudiants. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Et pourquoi les syndicats étudiants ne comprennent pas ce langage?
Gabriel Attal.
Chacun est dans son rôle. Jacques Grosperrin, il a aussi envie de montrer à ses troupes, aux sénateurs, que le texte de compromis qui a été trouvé correspond aussi à leurs attentes. La réalité, c'est que ça n'est pas, on l'a dit suffisamment de fois, ça n'est pas une réforme de sélection. Une réforme de sélection, c'est dire qu'on met un principe général qui est de dire
bon, ça,
que
c'est les un mot tabou, vous refusez de l'employer, ça ne veut pas dire que d'autres n'ont pas le droit de l'utiliser.
Il y a une réalité derrière. On ne dit pas aux universités, vous fixez vos critères et vous allez choisir vos étudiants. On ne fait pas ça. On met en place des attendus qui permettent de voir si les jeunes ont les capacités, le bagage suffisant pour réussir à l'université, et s'ils ne respectent pas les attendus, on ne leur dit pas par principe n'allez pas dans l'université en question, on leur donne un accompagnement pédagogique. C'est quand même ça le cœur et le sens de cette réforme.
Mais on ne les reçoit pas dans l'université qu'ils souhaitaient, donc c'est une forme de sélection, les syndicats.
Non, le principe général, c'est de dire que tout jeune poursuit dans l'université qu'il souhaite. Ensuite, il y a la situation des filières en tension, où il y a plus de candidats que de places. Pour ces filières-là, on crée des places supplémentaires, 22 000 à la rentrée prochaine. On met les moyens au rendez-vous, on renforce l'information, parce que ce qui se passe quand même beaucoup, c'est que dans ces filières en tension, vous avez des jeunes qui arrivent et qui ne s'étaient pas du tout préparés à ces filières-là et qui ne pensaient pas que la maquette pédagogique était celle qu'on leur propose. Et donc, on les informe mieux. Mmh. Et puis, dans le cas où il y aurait quand même plus de candidats que de places, eh ben, les universités, avec ces attendus, pourront voir ceux qui ont le plus de chances de réussir, qui ont été les mieux armés, leur permettre de poursuivre. Et pour les autres, pour tous les autres, il y aura une contre-proposition qui sera faite, la plus proche de leurs souhaits, pour aussi leur permettre de réussir. Voilà ce que c'est cette réforme.
Françoise, puis Karine.
Vous dites qu'il va y avoir une rencontre avec le ministre et la FAGE, et elle va rassurer la FAGE. Mais concrètement, comment vous rassurez alors que le texte est bouclé? Ça veut dire que dans les circulaires d'application, il y aura un petit peu plus de nuances.
Je vais pas déflorer ces discussions-là. Oui, il peut y avoir un certain nombre de précisions dans le règlement.
Il n'y a rien à cacher, franchement.
Par
vous
ailleurs,
pouvez nous dire
je pense qu'il y a des choses
à être décidé.
Je pense qu'il y a des choses à redire sur les capacités d'accueil. Aucune capacité d'accueil ne baissera dans aucune université que ce soit dans les années qui viennent. C'est un engagement qui est très fort, qu'il faut rappeler. Il n'y aura pas de baisse de capacité d'accueil. Au contraire, on les augmente.
Enfin, on est quand même dans Karine une Becker. Réforme du lycée, dans une réforme du bac, dans une réforme, on est en train de discuter, de l'université. Est-ce que vous n'avez pas la crainte, la peur que la moindre petite étincelle, malgré tout, enflamme tout, embrasse tout?
Moi, je ne crois pas. Vous savez, il y a beaucoup de tentatives d'instrumentalisation politique, je l'ai suffisamment dit. Je pense notamment à la France Insoumise, qui raconte n'importe quoi sur cette réforme, qui essaye d'envoyer les jeunes dans la
Pourquoi
rue comme des pions.
Pourquoi instrumentalisation politique?
Parce
ils sont
mentent.
Pas d'accord, ils mènent un combat
non,
contre vous.
Mais ils mentent. Enfin, je veux dire, moi, dans l'hémicycle, j'ai passé mon temps à leur répondre. Je veux dire, il y a des contre-vérités majeures qui sont avancées sur cette réforme. Il y a un discours, encore une fois, extrêmement négatif qui est mis dans la tête des jeunes. Je l'ai déjà dit, moi, j'étais à Lille en réunion publique. J'étais face à un jeune insoumis de 16 ans qui m'a expliqué, parce qu'il avait lu visiblement une fiche sur le sujet, que l'université ne devait pas être un lieu d'excellence. Ben, moi, je pense que ça doit être un lieu d'excellence parce que l'université, c'est justement l'endroit où tout le monde peut être accueilli et on peut pas réserver l'excellence à des grandes écoles. Voilà.
Mais néanmoins, même s'ils écoutent ce que vous appelez des contre-vérités, si les étudiants, pour reprendre ce que disait Karine, rejoignent le mouvement social, participent à cette colère, notamment celle des cheminots qui va se mettre en branle le 22 mars, est-ce que ce qui n'a pas pris à l'automne contre Emmanuel Macron, contre les réformes, ne pourrait pas éclore au printemps? Est-ce que la légitimité à réformer la France à grande vitesse qu'a Emmanuel Macron est encore intacte?
Je veux dire, si on n'avait pas légitimité à réformer la France profondément et rapidement, Emmanuel Macron ne serait pas à l'Élysée, je ne serais pas devant vous aujourd'hui.
En tout cas, je pense qu'on n'aurait pas. Il y a eu les EHPAD, il y a eu les gardiens de prison.
Attendez,
on sent que les choses
normal.
Bougent dans le pays aujourd'hui.
On avance, on réforme. Pour ce qui est des jeunes, ils ne se sont pas mobilisés à l'automne dernier au moment où la réforme a été présentée. La réforme qui a été adoptée reste dans la droite ligne. Je ne vois pas pourquoi ils se mobiliseraient. Parce que, comme tous les Français, ils sont attachés à la justice. Et avec cette réforme, on sort du tirage au sort qui est pour moi la forme la plus injuste de sélection, justement, à l'université. Voilà. On sort de ça et on fait en sorte de valoriser l'orientation, l'accompagnement et les compétences de chacun.
Le porte-parole de La République En Marche, Gabriel Attal, est notre invité.
Question politique sur France Inter.
Question de Françoise Fressoze.
Ce n'est pas votre spécialité, mais vous êtes quand même un député influent. Sur la réforme de la SNCF, où on voit que la CGT commence à se mobiliser, vous conseilleriez plutôt au gouvernement d'y aller doucement ou d'appliquer le rapport Spinetta tel qu'il a été donné?
Il faut y aller juste, il faut y aller efficace. Il faut de l'efficacité. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que les Français en aient pour leur argent sur le ferroviaire et sur le service public du ferroviaire. On a des subventions publiques qui sont extrêmement importantes. 15 milliards d'euros, je crois, pour le ferroviaire en France. Elles ont augmenté de 25% depuis 10 ans. Est-ce que la qualité de service pour les Français s'est améliorée? Non, parce qu'on met l'essentiel de l'argent sur des lignes TGV. Moi, je suis élu avant Vaissy-les-Moulineaux. Avoir un TGV qui fonctionne, ça me va très bien. Mais juste, en fait, je suis pas représentatif à ce niveau-là parce que il y a quand même 4 millions de Français dans ce pays qui prennent le train tous les jours pour leur quotidien, pour aller bosser, pour aller voir leur famille. Et ces trains-là, il faut mettre le paquet dessus. C'est quand même dingue qu'aujourd'hui, quand vous faites Nantes-Bordeaux, vous mettez une heure de plus qu'il y a 40 ans. Quand vous faites Limoges-Paris, vous mettez une demi-heure de plus qu'il y a 40 ans. Et pourtant, on a augmenté les moyens d'un quart. Comment est-ce qu'on l'explique? Ça veut dire qu'il faut réformer, il faut bouger ça, il faut mettre le paquet sur la proximité, sur les transports du quotidien, sur les territoires, et c'est ce qui est prévu.
Mais est-ce qu'il faut aller au bras de fer avec la CGT, notamment sur le statut? Est-ce qu'il faut casser le statut de la SNCF pour faire ce que vous dites?
Il ne s'agit pas de casser. Quand on dit casser, c'est casser pour un espèce de totem. Non, il s'agit de faire évoluer.
C'est ce qu'eux disent, en tout cas.
Il s'agit d'adapter les règles d'aujourd'hui à l'évolution de la société. Je veux dire, il y a encore des règles qui restent à la SNCF, qui datent de l'époque où on mettait du charbon dans la locomotive. Voilà, il faut avancer. On a déjà commencé à le faire. Je veux dire, il y a des réformes qui ont été engagées ces dernières années sur le sujet. Il faut continuer à avancer, mais il ne s'agit pas de brutalité ou quoi que ce soit. C'est juste être pragmatique et regarder quelle est la situation aujourd'hui et quelle est la réalité du travail aujourd'hui par rapport à celle qu'elle était avant.
Alors, le pragmatisme de Cyril Spinetta, c'est quand même de dire, voilà, on va desservir essentiellement les grandes métropoles, on va éviter de continuer à utiliser ces lignes qui ne sont pas très rentables dans le monde rural, en l'occurrence. C'est votre conception, vous, l'ancien socialiste, du service public, par exemple?
Moi, je vais vous dire...
Ça ne vous dérange pas de...
Je viens de vous dire qu'on veut justement mettre le paquet sur les transports du quotidien. Donc, justement, là, on est aussi dans le...
Métropoles, ça.
Non, pas du tout. C'est aussi au sein du monde rural. Il y a 1,5 milliard d'euros là qui vont être investis sur les lignes justement dans le rural, les lignes de proximité. Pour moi, la question n'est pas celle de la rentabilité que vous posez. C'est la question de l'efficacité. Voilà. Comment on explique que sur certaines lignes de très grande proximité, il y ait 30 passagers par jour? Voilà. Comment on l'explique et comment on y répond? Moi, je ne pense pas que la réponse, ça soit uniquement de les fermer. Ça peut être aussi, je l'ai dit tout à l'heure, de renforcer l'efficacité, la rapidité. Ça peut être de renforcer le service qui est donné dans ces wagons, parce que parfois quand même... On comprend pourquoi certaines personnes décident de plus les utiliser. Tout ça, il faut le regarder, et il faut le regarder au niveau régional. Parce que c'est pas depuis Paris qu'on peut juger de l'efficacité et de l'utilité d'une ligne dans les territoires. Il faut confier ça aux régions, avec l'État, en local, pour regarder et mettre à plat toutes ces... ces mesures-là. Alors,
moi, je voulais vous questionner sur un autre sujet dans lequel on dit plutôt que vous voulez revenir à la locomotive à vapeur. C'est celui de l'audiovisuel public sur lequel vous êtes un spécialiste et où certains vous prêtent l'ambition de revenir à l'ORTF puisque, mais vous allez nous expliquer, la ministre de la Culture a expliqué hier qu'elle voulait une présidence commune à Radio France et à France Télévisions notamment. Il faut rappeler que en 74, lorsqu'ont été créées les différentes chaînes et Radio France, c'était pour donner de l'indépendance aux différentes structures. En
quoi vous n'étiez pas né.
Cette réforme va donner de l'indépendance? Est-ce que ce n'est pas tout simplement une reprise en main par le pouvoir de son audiovisuel?
Mais il y a
Gabriel
pas. Enfin, il y a une réforme. Il y a une réforme majeure de l'audiovisuel à mener. Il ne s'agit pas de revenir sur l'indépendance de l'audiovisuel, ça c'est un acquis, et évidemment le sujet n'est pas là.
Pourquoi une présidence commune,
c'est l'efficacité. Vous parliez tout à l'heure de locomotive à vapeur. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que l'audiovisuel public s'est pleinement et totalement adapté à la transformation du digital, à la transformation numérique, à l'évolution des usages?
Comme toute autre structure, il évolue à son rythme. Mais
oui,
en tout cas, expliquez-nous
évolue,
en quoi la présidence commune sera un progrès.
La présidence commune sera un progrès si c'est une décision qui est prise au service de réformes structurelles. Voilà. Il faut se fixer des objectifs.
Pour que tout le monde comprenne, une présidence commune à Radio France, à France Télévisions, éventuellement même à d'autres médias publics.
Mais je vais vous dire, ça fait des années, évidemment, qu'on parle de réforme de l'audiovisuel. À chaque fois, on y rentre par le biais des personnes, de la gouvernance, savoir si c'est un tel ou un tel, et des économies. Nous, on commence par parler des missions. On a mis en place un groupe de travail à l'Assemblée nationale, avec des collègues, Aurore Berger, Frédéric Dumas, d'autres. On travaille sur le fond. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'on veut renforcer l'accès des jeunes à l'audiovisuel. Parce que la réalité, c'est que le public de l'audiovisuel...
Vous parlez des téléspectateurs?
Oui, des téléspectateurs. Mais parce que, vous regardez, l'audiovisuel, d'une manière générale, a des téléspectateurs vieillissants. La moyenne d'âge en France, je crois que c'est autour de 42 ans. Les téléspectateurs, sur toutes chaînes confondues, je crois qu'on est à 51 ans. Sur l'audiovisuel public en particulier, on est à 57 ans. Sur certaines chaînes, c'est 63 ans. Voilà. Comment on fait pour renforcer l'accès des jeunes?
Par exemple, comment on fait? Très concrètement, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, là, aujourd'hui, en quoi, après cette réforme de l'audiovisuel public, leur télé, leur radio va changer?
Pour les jeunes en particulier, on se dit que justement, on peut arriver à unifier un peu les moyens entre notamment Radio France, France Télé par exemple, pour constituer un vrai média global, digital, en direction des jeunes. Aujourd'hui, il y a Move
diffuser
France,
les Télétubbies
France 4.
À la télévision pour attirer vraiment un public très jeune.
C'est vrai qu'il y a plusieurs jeunesses. Non, justement, moi je pense que l'objectif, ça doit
pas être...
Ça
ferait vraiment baisser la moyenne d'âge.
L'objectif, ça doit pas être celui-là de l'audience, d'une manière générale, à tout prix. Je veux dire, il faut se fixer des objectifs. Et il faut dire que si les Français payent 138 euros de redevance télé chaque année, c'est parce qu'ils ont envie. Moi, je pense que il y a autre chose.
Ils sont obligés de le faire.
Oui, mais je veux dire, quand on paye, c'est parce qu'on a envie que y ait autre chose.
Alors
qu'on voit sur les autres
chaînes,
sinon ça sert à
rien. C'est vrai que c'est un débat qui est extrêmement abstrait. Quelles émissions, pour vous, sont indignes du service public?
Alors moi, je ne rentrerai absolument pas là-dedans.
Ah, qu'on comprenne de quoi vous parlez, sinon ça reste un débat sur le sexe des anges.
Je vais vous dire, je sais que j'ai certains collègues qui rentrent là-dedans. Moi, je suis pas chroniqueur télé. Je considère que j'ai pas à mettre le doigt sur telle émission en disant.
Et pourtant, vous n'arrêtez pas de dire que vous avez des émissions qui ne correspondent pas à une émission de service public.
Moi, ce que je regarde, c'est des indicateurs. Et c'est les objectifs.
Et
les indicateurs, c'est clairement de jeunes qui regardent.
Quand on vous demande à quoi peut ressembler la télé...
Si je termine sur les jeunes, c'est qu'on met 3,5 milliards d'euros pour l'audiovisuel public. La question, c'est est-ce que avec un tel budget, on peut réorienter les choses de manière à toucher davantage les jeunes. Et le digital, là-dessus, c'est quelque chose de majeur. Évidemment qu'il faut renforcer la présence sur le digital, sur les réseaux sociaux, avec des contenus qui s'adressent plus directement aux jeunes, avec des missions qui doivent être pour moi l'éducation aux médias, l'éducation à la société, au monde du travail. Il peut y avoir ce type de contenus qui sont relayés.
Par exemple, il existe une chaîne comme France 5 dont l'un des thèmes majeurs est l'éducation, et c'est la chaîne du savoir, ce qui n'existe dans aucune autre offre privée, par exemple.
Je dis pas qu'il
Donc il y a
rien,
déjà des acquis.
Mais je dis pas qu'il se passe rien, évidemment qu'il y a des acquis, y compris à Radio France.
Oui, mais Radio France, éducation aux médias.
Si on prend cette question des jeunes et de l'éducation aux médias, justement, vous regardez, aujourd'hui, toutes les sociétés d'audiovisuel public ont mis en place, ont essayé de mettre en place des dispositifs pour donner des outils pédagogiques aux profs, pour que dans les écoles, justement, on puisse faire de la vraie éducation aux médias, ce qui est important, on parlera peut-être des fake news, la vraie éducation aux médias, éducation aux mouvements sociétaux. Tout ça est très éclaté et très séparé. Il y a Éducarté, il y a quelque chose à Radio France, à France Télé. Est-ce qu'une présidence commune, pour y revenir, permettrait de lancer des chantiers pour unifier tout ça, pour qu'on ait une vraie base solide en direction de tous? Moi, je pense que ça mérite d'être regardé. Voilà pour la présidence commune, pour y revenir. Ça doit être fait si c'est au service d'objectifs clairs qu'on se donne avec cette réforme.
Encore une question là-dessus avant de changer de sujet. Qu'est-ce que vous aimez à la télé?
Moi, j'aime plein de choses. J'ai plus trop le temps de la regarder.
Vous êtes un jeune, qu'est-ce que vous regardez?
Moi, je la regarde beaucoup en délinéarisé, comme on dit, c'est-à-dire que je la regarde pas forcément
en direct. Que regardez-vous donc en délinéarisé? J'y arriverai pas.
Je regarde des séries télé, je regarde des émissions d'investigation sur France 2 notamment. Je regarde, il m'arrive de regarder des trucs sur TF1. Hier soir, j'étais devant The Voice, si vous voulez tout savoir. Voilà.
Et vous avez un candidat préféré?
Non, j'ai pas de candidat préféré.
Françoise Fressoz.
Moi, je voudrais changer de sujet.
Oui,
si on peut.
Allez-y, il reste 3 minutes.
Alors. Il y a baisse de popularité de l'exécutif qui est très liée aujourd'hui à la question du pouvoir d'achat et notamment à la hausse de la CSG. Est-ce que vous pensez qu'il faut une mesure de compensation et donner un peu plus de pouvoir d'achat parce que notamment la croissance est de retour?
Moi, je pense deux choses. D'abord, je pense qu'il faut expliquer ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et je vous remercie de me donner l'occasion de parler du pouvoir d'achat. La deuxième chose, c'est qu'il faut rappeler, indiquer, qu'on n'est pas là en train de s'applaudir et en train de considérer qu'on a fait le chemin sur la question du pouvoir d'achat. On a les mains dans le cambouis. En général, quand on a les mains dans le cambouis, on s'applaudit pas parce que c'est quand même pas le moment. On est en train de mettre en place des mesures pour le pouvoir d'achat. Vous parlez d'augmentation de la CSG. La base, c'est quand même qu'on a supprimé les cotisations salariales pour tous les salariés de ce pays. C'est-à-dire que tous les salariés aujourd'hui voient leur net augmenter.
Mais là, je veux pas le dire
et le verront
hein.
Encore plus. Oui, mais c'est important de rappeler pourquoi on le fait. Et pourquoi on fait la CSG? Pour ça. La CSG augmente sur les revenus du patrimoine et donc, c'est vrai, sur des retraités qui, eux, ne bénéficient pas de la suppression des cotisations salariales. On parle des retraités qui ont en moyenne une retraite supérieure à 1 200 euros. Est-ce que ça veut dire que quand on a une retraite supérieure à 1 200 euros, on est riche? Évidemment pas. C'est pour ça qu'on met en place la suppression de la taxe d'habitation. Dès le mois de septembre prochain, vous avez 80% des Français qui paieront moins
donc
de taxe d'habitation
patience.
Et qui en paieront plus
on
dans 3
rien
ans.
Patience,
non, il faut expliquer.
Mais il y a la hausse des taxes sur le diesel, il y a la hausse
que je dis aujourd'hui,
des taxes sur le tabac.
Je peux terminer parce que c'est important. Oui. Ce que je dis aujourd'hui à des retraités qui voient leur CSG augmenter et qui évidemment s'inquiètent, ce que je leur dis, c'est que pour une grande partie d'entre eux, ils auront la suppression de leur taxe d'habitation dès le mois de septembre prochain pour une partie, dans 3 ans totalement. Dès septembre prochain, en moyenne, ça fera quand même près de 300 euros par an. Et donc, ça compense très largement la hausse qu'ils peuvent connaître aujourd'hui. Il faut avoir tout ça en tête et moi, je comprends qu'il puisse y avoir des inquiétudes. Je comprends que certains puissent se dire, mais attendez, pour l'instant, le compte n'y est pas quand je regarde mon porte-monnaie ou mon compte en banque. Et on continue à travailler et on continue sur toutes les réformes à essayer de voir comment on redonne des marges aux Français. On parlait de l'enseignement supérieur tout à l'heure. Ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est qu'on supprime la cotisation qui était payée avant par les étudiants pour leur assurance maladie. 217 euros par an qui étaient versés par notamment des classes moyennes puisque les boursiers la payaient pas. Voilà, on redonne 217 euros de pouvoir d'achat sur ces Français, sur les familles, sur les jeunes qui n'auront plus à payer cette cotisation. C'est important de le dire aussi.
L'émission touche à son terme. Karine.
Une toute dernière question. Est-ce que vous apportez vraiment... oui. Juste une seconde. Vous apportez votre soutien le plus total à Hulot et Darmanin au sein du gouvernement ?
Et moi, je rappelle la règle qui a été fixée.
Non, je vous demande si vous apportez votre soutien le plus total.
Aujourd'hui, je n'ai pas de raison de penser qu'il ne faut pas les soutenir. Voilà.
Merci Gabriel Attal.
Merci.
Merci à tous les trois. Question politique se termine. Merci à Mathilde Clade d'avoir préparé cette émission. Je vous retrouve juste après le journal de 13h pour le grand face-à-face de France Inter. Et je vous dis donc à tout de suite.